Le Grand Matin Sud Radio, 7h-10h, Patrick Roger, Judith Belair.
Allez, les grands débats du matin avec plusieurs invités ce matin. Naïma M. Fadel, conseillère au cabinet de la présidente de la région Île-de-France, en charge de la politique de la ville. Vous avez été déléguée aussi au préfet dans les Yvelines, me semble-t-il, du côté de Mantes-la-Jolie. Approchez-vous bien du micro.
Exactement.
De Mantes-la-Jolie. Et vous êtes co-auteur de ce livre avec Olivier Roy. Et tout ça devrait faire d'excellents Français. C'est aux éditions du Seuil. C'est déjà sorti il y a un petit bout de temps. Évidemment, ces dialogues sur les quartiers avec Olivier Roy, ce qui est assez, on va en reparler en fait dans un instant. Ce qui est assez étonnant, c'est que vous veniez tous les deux en fait de quasiment du même endroit.
On est tous les deux de Drouet, on est tous les deux habitants de Dreux.
De Dreux,
il
voilà.
Il a été professeur dans les années 80 à Dreux, il a été professeur au lycée Rotrou à Dreux.
Oui, qui est devenu spécialiste évidemment des questions de l'islam. On va voir ça avec vous. Olivier Maurice, vous êtes avocat pénaliste, des grandes affaires, Karachi, et beaucoup d'autres. Bonjour.
Bonjour.
Merci d'être avec nous. Et puis Jean Terrier, député de La République En Marche du Tarn, porte-parole justement de La République En Marche, avec nous aussi pour aborder les grandes questions en fait de l'actualité. Alors, on va commencer par le débat autour peut-être de la vidéosurveillance et puis des agressions en fait de policiers. Parce qu'il y a eu cette affaire en fait de Lyon-la-Duchère. Il y a de nouveau une histoire en fait, une affaire du côté d'Alençon en fait cette nuit, à plusieurs reprises, ça revient, et les policiers qui se sentent, c'est quand même assez terrible, en insécurité parfois en allant en fait intervenir. Christophe Castaner, qui était notre invité tout à l'heure à 8h15, disait on a renforcé les effectifs de police et on est au plus près en fait du terrain. Vous qui avez vu la situation évoluer en l'espace de 30 ans, Naïma M. Fadel, quel est votre regard sur aujourd'hui?
Sur aujourd'hui, oui, il y a de quoi vraiment s'inquiéter parce que ça devient de plus en plus préoccupant parce qu'aujourd'hui, ils n'hésitent plus à tirer sur la police. Mais je crois qu'on paye en fait ces 30 ans de laxisme, de lecture sociale, ethnique, culturelle, misérabiliste, je dirais, qui a fait qu'on n'est pas intervenu. Donc aujourd'hui, il y a un sentiment, il y a une impunité, effectivement. Souvent, ces actes sont commis par des mineurs, donc il y a vraiment la question de la justice des mineurs qui doit se poser, qui devait se poser depuis des années. Vous allez voir, dans le livre, je raconte le processus. Je raconte le processus, en fait, ça a débuté dans les années 80. D'ailleurs, les politiques publiques en direction des quartiers ont été mises en place dans les années 80. L'idée, c'était d'intervenir sur ces quartiers où il y avait des problèmes de délinquance, de nuisance, de dégradation multiple, déjà d'échecs scolaires, déjà de non-insertion sociale. Et on est intervenu, en fait, avec des pansements et avec l'idée d'acheter la paix sociale. Et c'est ça qui conduit aujourd'hui, où on a un écosystème qui s'est mis en place, malheureusement, qui fait qu'il y a...
Avec des ghettos qui se sont créés, ce que vous décrivez dans votre livre, quoi, où dans la région, en fait, de Dreux, il y avait une cohabitation. Il y avait du vivre ensemble, c'était dans les années 70-80.
Exactement, il y avait de la cohabitation, il y avait effectivement des populations aussi de l'immigration, des populations aussi de confession juive, il y avait tous ces populations-là qui vivaient ensemble. Il y avait vraiment une mixité parce que, effectivement, les populations aussi de l'immigration étaient minoritaires. Il y avait une altérité aussi qui se jouait. Moi, je suis le pur produit de cette France et des locales françaises, puisque moi, mes parents ne savaient ni lire ni écrire le français, ils sont d'origine marocaine, et que je me suis retrouvée en fait avec des amis italiens, français de souche la plupart, et que en fait par la force du territoire, si je puis dire, de l'espace, a fait que moi on s'est agrégé naturellement et d'une manière apaisée. Mais c'est vrai qu'après il y a eu les années 80 où il y a eu fortement un regroupement familial qui s'est fait mais qui n'a pas été préparé. En fait, moi je pense que notre pays n'a pas mis en place une vraie politique d'intégration qui permette aux gens de pouvoir en fait s'insérer, s'agréger à la France.
Et ce qui conduit aux tensions actuelles. Alors les tensions actuelles qui sont renforcées aussi par... on va parler de la justice en fait dans un instant avec Olivier Maurice, si elle a les moyens aussi pour répondre en fait à ça, par les trafics de deals, de délinquance dans les quartiers, et on a l'impression qu'on est un peu démunis, désarmés face à ça, Jean Terlier, non ?
Je ne sais pas si on est désarmé, mais c'est vrai que ces situations-là, elles sont intolérables sur le territoire de la République. Je crois qu'il faut aussi rappeler que ces tristes événements qu'on a vécu à Lyon notamment, ils sont la résultante de l'intervention des forces de l'ordre et des démantèlements de ces trafics et de l'interpellation de ces trafiquants. Et donc ça veut dire que la police fait son travail, les personnes sont interpellées, ils sont jugés. Donc
En l'occurrence, elles n'ont pas été interpellées pour Lyon.
En l'occurrence, si vous voulez, il y a quand même malgré tout, dans le cadre de ce démantèlement des trafics, des personnes qui sont interpellées. On avait Gérald Darmanin hier qui faisait le point sur la circulation des interpellations et des démantèlements de ces trafics de deals qui sont de ces trafics de drogue qui sont en France, qui sont en augmentation sur le mois de septembre de plus de 30%. Donc la police
30% d'augmentation
au mois de septembre. Donc ouais. ça veut dire qu'il y a une traque, qui est le leitmotiv de nos forces de l'ordre qui font correctement leur travail et qui amènent ces dérives, parce qu'on le voit bien, c'est à la suite de l'interpellation de ces trafics qu'on a,
ou la volonté de les interpeller, et puis parfois.
Mais
parfois ils vous échappent et ils vont placer les points de deal se déplacent quoi.
Les points de deal se déplacent, mais je crois que c'est une guerre incessante qu'il ne faut pas arrêter. C'est ce qu'a rappelé encore une fois le ministre de l'Intérieur avec plus de moyens pour nos policiers et gendarmes en matériel notamment. C'est aussi ce qu'a dit le ministre et rappelé le ministre sur la nécessité d'aller vers plus de vidéoprotection. C'est pas l'alpha et l'oméga parce qu'il faut aussi également des policiers et des gendarmes sur le terrain. Ce sera 10 000 policiers et gendarmes de plus sous ce quinquennat. Donc il y a des efforts qui sont faits, mais il faut poursuivre.
Bon, mais des policiers souvent qui disent oui, mais nous on va interpeller, mais derrière ça ne va pas suffisamment loin. Olivier Maurice, vous allez nous parler de deux affaires hein, tout à l'heure d'ici en fait 9h30, deux affaires en fait judiciaires et notamment aussi la convocation. Ça c'est quand même c'est extrêmement rare d'Éric Dupond-Moretti dans une affaire, dans l'affaire Pastor. Avant cela, sur ce qu'on disait en fait à l'instant, sur la justice, puisque vous la voyez en fait au quotidien, est-ce qu'elle n'a pas les moyens ou est-ce qu'elle n'y arrive pas? Elle est dépassée pour faire face à cette délinquance qui est très forte et derrière, les policiers disent oui, on interpelle les gens et derrière ils sont relâchés.
Vous savez, le regard que je porte sur ces questions, c'est d'abord le constat d'une très grande lâcheté politique depuis 30 ou 40 ans. C'est-à-dire qu'il y a un discours du politique qui consistait à dire qu'il fallait intervenir. Mmh. Et en réalité, il y a eu très peu d'interventions sur le terrain, voire même du laisser-faire. C'est-à-dire que ces ghettos que l'on connaissait, on les a laissés prospérer. Alors ensuite, on essaye d'essayer de cibler des responsables de ce constat d'échec, parce que nous sommes confrontés à un véritable paradoxe. En réalité, c'est ceux qui sont chargés d'assurer la sécurité des citoyens qui dénoncent eux-mêmes leur propre insécurité. Ouais. C'est-à-dire qu'on est face à un dilemme absolument incroyable, avec comme seule réponse qui tente d'être apportée, la vidéosurveillance. Je crois que ça n'est pas tout à fait sérieux. Ça n'est pas d'ailleurs...
C'est une arme en plus,
c'est un élément.
Un élément.
Mais très franchement, je crois que d'abord, il faut une volonté. Il faut une volonté politique. Il faut une volonté... des maires d'intervenir, de pouvoir intervenir, aider aussi à ce que certains ghettos puissent être, je dirais, démantelés, et évidemment que la justice participe à ce que des sanctions suffisamment sérieuses soient aussi prononcées.
Oui, ben voilà. Donc la vidéosurveillance, ça fait réagir 0826 300 300. Qui est avec nous? Frédéric du Gard. Frédéric, ou de Paris. De Paris, hein, c'est ça. Frédéric.
De Paris.
Voilà, Frédéric. Vous vouliez réagir. Allez-y, vous avez entendu, en fait, Naïma M. Fadel, Olivier Maurice et Jean Terlier.
Oui, bonjour mesdames, bonjour messieurs. Oui, je souscris complètement à ce qui est dit, notamment ce qui est très bien dit par Naïma M. Fadel, et aussi par la personne qui vient d'intervenir.
Maître Maurice, oui.
Et avant également, effectivement, pour moi, mon avis, la vidéosurveillance, c'est pas, effectivement, comme ça a été dit, l'alpha et l'oméga. La vidéosurveillance, c'est un outil supplémentaire qui peut être efficace pour les enquêteurs, ça il faut le reconnaître, mais après que les faits aient été produits, j'ai pas le sentiment que la multiplication des caméras dans nos villes réduit la délinquance, puisqu'on sait qu'elle semblerait être plutôt exponentielle. Et je pense que peut-être à un moment dans l'idée des politiques, ça a été de se dire la vidéosurveillance va remplacer le policier sur le terrain, et ça donne peut-être le sentiment qu'on a déshumanisé le travail de police par la mise en place d'un outil matériel qui va les remplacer. Je pense que l'adage « la peur du gendarme » sera toujours d'actualité. S'il y a des effectifs sur le terrain qui sont visibles, en plus des enquêteurs derrière, qui travaillent peut-être un peu d'une manière un peu moins visible, il y aura des résultats, il y a des affaires judiciaires et les chiffres le montrent, les policiers et gendarmes font un travail extraordinaire, mais il faut aussi qu'ensuite, derrière ce travail, il y ait une réponse pénale, et une réponse pénale qui soit rapide, ce qui n'est pas toujours le cas, et qui ait les moyens d'être appliquée, ce qui n'est pas toujours le cas, c'est-à-dire qu'il faut une justice qui ait des moyens. Parce que, bon, moi je connais bien les magistrats, ce sont des gens extraordinaires qui font un travail formidable, dès lors qu'on met de côté ceux qui font de la politique, mais ils souffrent de manque de moyens, comme la police et les gendarmeries, ils souffrent de manque de moyens. Mmh. Mais la vidéoprotection, effectivement, peut aider et aide hein, dans des enquêtes, identifier des personnes, sauf que, les délinquants de métier savent qu'il y a de la vidéoprotection, et ont aussi des...
Ah bah parfois ils utilisent les tronçonneuses hein, pour enlever cette... C'est déjà arrivé.
Ouais. Oui, bien sûr. On a vu les policiers qui ont failli mourir incendiés dans leur véhicule parce qu'ils étaient à un emplacement où on voulait supprimer, je crois, si je n'ai pas de mémoire, un mât de vidéoprotection. Mmh. Hein, mais,
donc oui, ce que vous dites, Frédéric, c'est que ce n'est pas forcément l'alpha et l'oméga d'une politique de sécurité. C'est un complément, comme le disait Maître Olivier Maurice, et je pense qu'on est tous d'accord autour de cette table. Allez, on marque une petite pause et on se retrouve dans un instant. On va continuer de parler en fait, de ce sujet, des quartiers évidemment sensibles, d'affaires judiciaires, et puis on ira peut-être un petit mot sur le pass sanitaire, là, puisqu'il y a des débats qui sont en route.
A tout de suite.
Le Grand Matin Sud Radio, 7h-10h, Patrick Roger, Judith Belair.
Et c'est la suite des grands débats du matin avec nos invités Naïma M. Fadel, conseillère du cabinet de la présidente de la région Île-de-France, Olivier Maurice, avocat pénaliste, et Jean Terlier, qui est député LREM du Tarn.
Alors avant de débattre et de continuer en fait sur la vidéosurveillance, sur la situation en fait dans les quartiers, peut-être aussi d'évoquer le pass sanitaire qui est débattu aujourd'hui au Sénat avant de revenir à l'Assemblée nationale. Deux histoires judiciaires qui interpellent hein, Maître Olivier Maurice. Ce matin, on va revenir sur Dupond-Moretti, donc qui est convoqué, enfin appelé comme témoin dans une affaire, et pas n'importe quelle affaire, l'affaire Pastor, du côté d'Aix-en-Provence. Et avant cela aussi, sur une autre histoire dont vous avez plaidé, sur l'avocature face à M. Soulez-la-Rivière. Hein, racontez-nous.
Daniel Soulez-la-Rivière, qui est un brillant confrère, qui a un certain âge maintenant, a écrit un livre en 1982 qu'il a intitulé « L'avocature ». Et depuis 1982, il répand sa propre vérité, qui consiste à dire qu'il a créé ce néologisme et qu'en fait, personne ne peut l'utiliser en dehors de lui-même comme titre d'un ouvrage. Et Aurore Boyard, qui est une brillante avocate et en même temps romancière, a écrit une trilogie et dans le cadre de sa trilogie, elle a intitulé l'un de ses livres « De la vocation à l'avocature ».
Et donc, elle a utilisé ce terme, l'avocature.
Monsieur Soulez-la-Rivière a attaqué sa consœur de façon assez violente pour faire en sorte que le tribunal interdise son livre, interdise ce titre, et que cet ouvrage soit retiré donc des différentes librairies. Et en première instance, il a perdu d'une manière extrêmement sévère. Devant la cour d'appel, il vient également de subir un affront, puisqu'il est tout de même aussi président du comité d'éthique du barreau de Paris, et il est tout de même assez invraisemblable que quelqu'un de cette qualité et de cette réputation ait pu faire croire, depuis 1982, qu'il était l'auteur d'un néologisme, alors qu'en fait, c'est un terme qui est utilisé depuis très longtemps.
Ah voilà, c'est ça, Émile parce que Zola... s'il l'avait inventé, on pourrait lui attribuer, ce qui est logique quand
même. On a retrouvé des occurrences depuis le XVIIe siècle, et notamment, c'est assez amusant, Émile Zola, dans l'Aurore, Aurore Boyard, qui dans l'Aurore, utilisait le terme d'avocature. Et donc, en réalité, si vous voulez, c'est assez... C'est pathétique de constater que ce confrère brillant a dû faire un procès.
Pourquoi il l'attaquait en fait ça faisait pas d'ombre à son livre. C'est pas du tout la même chose quoi.
Vous savez, je pense que c'est tout simplement la boursouflure de l'ego. C'est-à-dire l'hubris, ce que les Grecs...
Ce que les Grecs... Il va vous attaquer en diffamation, mais
non, c'est pas une diffamation, je l'ai plaidé d'ailleurs. Je pense qu'il est dans d'autres sphères, il est hors sol, il est parti dans une sorte de comète sidérale qui est liée à sa propre personne et à l'histoire de sa propre personne.
Et l'affaire est bouclée maintenant,
il y aura pas d'affaire. L'affaire est bouclée, enfin, il a quand même été condamné à 53 000 euros de frais de justice.
Ah oui, quand même.
Ce qui est quand même... pour quelqu'un qui prône au niveau de la justice, le fait qu'il est important d'avoir un juste rapport qualité-prix, le rapport qualité-prix de son action est tout de même assez déplorable pour lui.
Bon, la justice, là, en tout cas, a fonctionné. D'un mot, quand même, un commentaire sur ce qui va se passer pour Éric Dupond-Moretti. Il est appelé comme témoin dans l'affaire Pastor, qui est jugée en appel à Aix-en-Provence. Hein. On se rappelle, la riche héritière qui a été, en fait, tuée, assassinée. Lui a été avocat, hein, c'est ça, d'une des parties. Est-ce qu'un garde des Sceaux en fonction, c'est déjà arrivé, ça, a été appelé, en fait, à la barre ?
Alors d'abord, ce qui est, si vous voulez, le constat qui est d'une évidence, c'est que Éric Dupond-Moretti déchaîne les passions. Ouais. Il déchaîne les passions. Il déchaînait déjà les passions lorsqu'il était avocat. Mais alors là, c'est une véritable hystérisation. Parce que, franchement, ce qu'il faut rappeler tout de même, c'est que lorsqu'il était l'avocat de M. Janowski, qui est le présumé commanditaire de l'attentat qui est jugé de l'assassinat dans cette affaire, il a osé faire quelque chose, je dirais, qui est une forme de transgression, c'est-à-dire qu'il a plaidé en reconnaissant les faits à la place de son propre client. C'est-à-dire qu'alors que son client contestait sa responsabilité, qu'il était revenu sur ses aveux, il a, dans le cadre de ses plaidoiries mémorables, dont il a le secret, fait un effet de manche, un coup de théâtre, en plaidant le fait que vous attendez à ce que M. Janowski reconnaisse ce crime, eh bien, ça n'est pas lui qui va le faire, c'est moi, son avocat, qui vais reconnaître ça. Alors, ça pose tout de même un problème,
Est-ce que son client était d'accord avec cette affaire,
Son client proclame aujourd'hui que non seulement il n'était pas d'accord, mais il lui demande des comptes. Alors, ce qui est tout de même assez singulier, c'est qu'en même temps, Éric Dupond-Moretti, qui a été avocat, maître Dupond-Moretti, et qui était très attaché au secret professionnel des avocats lorsqu'il était avocat, eh bien, va nécessairement dire au président de la cour d'assises, qui est un remarquable magistrat, hein, le président de la cour d'assises, un ancien juge d'instruction, Monsieur Ramael, qui est quelqu'un d'expérimenté. Mais
conduit les perquisitions à l'Élysée.
Il va se retrancher.
À l'époque de Nicolas Sarkozy.
C'est un magistrat courageux. Ouais. Bien. Mais il va se retrancher de manière évidente derrière le secret professionnel qui couvre les confidences qu'il a pu échanger avec son client à l'époque. Donc en quelque sorte, c'est tout de même un coup d'esbrouf.
Oui. Bon, allez, on va poursuivre les deux. Un simple petit commentaire sur
la forme de la procédure. C'est, j'allais dire, normal, c'est le Premier ministre qui a été saisi de ce courrier par le président de la Cour d'appel. Il y aura une décision qui sera prise à l'issue du Conseil des ministres. Sur le fond de l'affaire, moi, je la connais pas particulièrement. Ce qu'on sait quand même, c'est que ce dénommé Janowski avait d'abord reconnu sa culpabilité dans le cadre de sa garde à vue, qu'il a changé à de multiples reprises de version. Nous verrons évidemment si le garde des Sceaux intervient comme témoin. Toujours est-il que le code de procédure pénale nécessairement pas l'obligera, mais il répondra aux différentes informations qu'il a à produire.
Ouais. Mais il y a le secret professionnel qui pourra être opposé ou pas, je ne sais pas.
C'est vrai que c'est la confidence entre un client et son avocat. C'est l'avocat, je crois, de la famille Pastor qui disait que lui, à titre personnel, ne poserait pas de questions à Éric Dupond-Moretti parce que justement, les réponses qu'il serait amené
surtout
à formuler
qu'ils se connaissent très bien.
Je n'en sais rien, mais seraient amenées à être couvertes par le secret professionnel.
C'est tout le débat qui est intéressant sur le métier en fait d'avocat. Jusqu'où aller, quoi ? Défendre parfois l'indéfendable, trahir ou pas des secrets. C'est assez passionnant. Allez, on poursuit. On marque une petite pause et on poursuit dans un instant et on revient sur nos sujets autour de la vidéosurveillance également, du trafic en fait de drogue et puis la vie dans les quartiers. Avec notamment Naïma M. Fadel qui a écrit en fait ce livre. Alors elle l'a écrit il y a 5 ans. C'est tout à fait remarquable. On a l'impression que ça a été écrit hier. Et tout ça devrait faire d'excellents français.
À tout de suite.
Le Grand Matin Sud Radio, 7h-10h, Patrick Roger, Judith Belair.
Vous êtes bien dans le Grand Matin de Sud Radio qui continue avec les grands débats du matin. Et puis ce matin, on reçoit Naïma M. Fadel, qui est conseillère au cabinet de la présidente de la région Île-de-France et essayiste. Et Olivier Maurice, qui est avocat pénaliste. Jean Terlier également, député LREM du Tarn.
Oui, et porte-parole de la République oui. En marche. Alors on évoquait l'histoire et les affaires de trafic de drogue, les policiers qui sont attaqués quand ils vont interpeller. Ce que vous disiez en fait tout à l'heure, Jean Terlier, c'est qu'il y a une augmentation évidemment des interpellations récemment au mois de septembre parce qu'il y a eu un coup de booster en fait donné. Bon, ça dit, on n'a pas l'impression que le trafic de drogue diminue véritablement parce que bien souvent les points de deal sont déplacés. Et puis d'une façon générale, bah, ces quartiers sont en, comme l'avait dit un certain François Hollande, il l'avait confié à Davet et l'Homme, sont en partition en fait du territoire. Vous, c'est ce que vous ressentez, Naïma M. Fadel, vous qui venez en fait de quartiers, qui avez travaillé longtemps en fait dans ces quartiers, hein, bien sûr.
Oui, puis j'ai continué oui. Aujourd'hui encore, j'interviens. Oui, et effectivement, c'est-à-dire qu'à partir du moment où on a mis en place une politique spécifique pour ces quartiers, et le fameux zonage, hein, parce que l'idée du zonage, ça partait d'une bonne intention, c'était d'intervenir, de circonscrire en fait les quartiers, entre guillemets, à problème, problème de dégradation multiple, d'insécurité, d'incivilité, de délinquance, etc. Et d'intervenir massivement avec des politiques de discrimination positive. À partir du moment où on a fait ça, on a aussi séparé. Vous voyez, on n'a pas mis en place une politique que moi j'appelle de mes voeux, une politique qui permette à ces quartiers de s'agréger à l'ensemble d'une ville. Donc c'était circonscrire le problème, intervenir spécifiquement, mettre en place des politiques, des subventions spécifiques, des emplois et des spécifiques pour les habitants des quartiers. Ce qui fait qu'on a créé, on a favorisé, on a encouragé une espèce d'écosystème de ghettoisation sociale, ethnique, culturelle. C'est la triste réalité. Et du fait, on en a fait effectivement des territoires à part où après, les autres habitants qui n'habitaient pas ces quartiers n'avaient pas envie d'y aller. Et puis, partaient de ces quartiers les habitants qui avaient les moyens. Et du fait, on a retrouvé cette ghettoisation. Et puis après toute cette
société... Et un communautarisme, en fait, qui est monté derrière, quoi.
Mais en fait, le communautarisme, il devient de fait à un moment parce que quand vous vous retrouvez dans des quartiers comme ça, avec la politique du logement, notamment où ne peuvent habiter que les gens qui veulent bien dans ces quartiers, qui n'ont pas d'autres solutions. Quand vous mettez en place en plus des politiques pour d'emploi aidé pour les habitants des quartiers, vous voyez, donc vous créez encore une espèce de millefeuille et vous encouragez, favorisez effectivement un communautarisme qui est devenu un communautarisme. Et puis, il faut dire les choses aussi. Le fait aussi d'avoir favorisé des associations de quartier a fait que vous avez encore fait du séparatisme.
Parce qu'auparavant, pourquoi ? Parce que ce sont des associations... qu'est-ce qu'on peut leur reprocher à ces associations ? Bah, d'avoir du militantisme, savez, entre guillemets ?
Vous savez, au début, vous aviez des associations qui travaillaient sur l'ensemble d'une ville. Vous avez des associations sur l'action sociale, les centres de loisirs, etc., qui s'adressaient à l'ensemble d'une ville. À partir du moment où vous dites, vous êtes dans votre quartier, créez des associations, on va vous aider, vous faites de l'action sociale, vous faites du sport, etc., vous n'avez plus ce lien avec l'ensemble de la ville. Ouais. Donc, et puis, pour certaines associations, je ne dis pas toutes, il y a aussi l'effet aubaine. Et certains ont trouvé aussi un instrument, un outil, de propagande religieuse aussi.
Alors oui, c'est ça, parce qu'on a beaucoup parlé ces dernières années.
Les années 80, l'accompagnement social, c'était les frères musulmans.
Oui, et encore aujourd'hui, où il y a évidemment un entrisme, si je puis dire, religieux et du prosélytisme à travers des associations culturelles, mais également des associations, évidemment, sportives.
Exactement, on le sait. Hein.
Et dans la loi sur le séparatisme qui a été étudiée, en fait, il y a maintenant quelques semaines, vous estimez qu'on n'est pas allé suffisamment loin, parce que ça recouvre en fait un petit peu ces éléments, ce que vous venez de dire, quoi.
Moi, je pense que, sincèrement, le ministre Darmanin fait du très bon travail, je tiens à le dire. Je ne suis pas la REM, mais je tiens à le souligner. D'ailleurs, c'est quelqu'un qui vient de la droite, donc ça ne m'étonne pas. Mais c'est vrai que sur la loi sur le séparatisme, je regrette qu'on n'ait pas été beaucoup plus loin. Notamment sur deux points qui me semblent importants. Le voilement des petites filles, ça je ne comprends pas. Que dans un pays comme la France... On met la priorité en termes d'égalité hommes-femmes, des droits des femmes. Enfin, on voit bien que Marlène Schiappa essaye de faire beaucoup de choses sur ces questions-là. Et qu'on n'ait pas interdit le voilement des petites filles. Il faut savoir que c'est parfois des petites filles de 2 ans, 3 ans. Hein. Et puis, sur aussi une autre... Un autre point que j'ai pu, moi, observer, c'est la place des élus aussi. Parce que les élus aussi, dans ce séparatisme ou dans cet accommodement qui a été mis en place dans certaines villes, ils sont les responsables. Et je trouve qu'ils ont une forte responsabilité.
Pourquoi ? C'est-à-dire qu'ils ferment les yeux sur certaines choses et puis ils s'accommodent de situations pour avoir une paix un peu sociale. C'est ce que l'on a dit pendant des années.
Vous avez raison. Il y a pour avoir la paix sociale, effectivement, donc on regarde à court terme. Pour aussi être élu, il faut dire les choses. Et on ne voit pas cette notion de responsabilité envers la République, si je puis dire. Donc il y a des accommodements. Il y a aussi les bails emphytéotiques qui sont distribués à chaque élection. C'est pour ça que dans le livre, clairement...
C'est-à-dire, oui, expliquez.
Eh bien, les bails emphytéotiques, vous savez, vous donnez en fait un terrain. Ouais. Vous avez la possibilité, quand bien qu'il y ait la laïcité, vous pouvez donner un terrain à des organisations cultuelles pour créer une mosquée. Notamment, ça, aujourd'hui, c'est plutôt pour construire des mosquées. Et ça, moi, je dis carrément qu'il faut clairement que ce soit le ministère des Cultes qui puisse autoriser
piloter,
ou pas.
Piloter, au niveau national.
Oui, voilà, les autorisations, etc. Ouais.
Jean Terlier, réaction sur ce que disait Naïma M. Fadel, notamment sur la loi sur le séparatisme. Elle dit, on a commencé, mais on n'est pas allé suffisamment loin.
Oui, je pense que cette loi sur le séparatisme, elle a quand même le mérite de nommer très clairement les choses. On est dans une loi qui doit lutter contre, pas seulement, mais contre l'islam radical aussi. Ouais. Et ce qu'on ne nommait pas avant, on le nomme de manière très claire dans le cadre de cette loi. Alors, j'entends ce qui a été dit sur le voile, mais cette loi sur le séparatisme, elle produit déjà ses effets. J'ai écouté hier, comme vous, le ministre Darmanin venir dire que c'était 13 associations qui avaient été dissoutes. C'est trois fois plus que sous les mandats précédents, c'est-à-dire qu'on se saisit du problème. C'est 21 mosquées qui ont été fermées. Là aussi également, on se saisit du problème. Et je crois que cette loi permet déjà de dire les choses, de décrire les problématiques, de lutte contre cet islam radical et de se donner les moyens pour...
C'est poser les bases, quoi, et puis avec des moyens d'action.
Exactement, qui produisent manifestement leurs effets d'ores et déjà.
Oui, oui. Naïma M. Fadel ? Vous n'êtes pas convaincu.
Je suis pas. Je comprends. Hein, vous êtes dans votre rôle et donc vous déclinez un peu ce qui a été fait. Et je veux bien, mais le voilement
des chiffres.
Oui, mais c'est très bien. C'est très bien. Je vous dis pas le contraire. Après, il faut aller beaucoup plus loin. Hein, faut vraiment être soucieux de ce qui se dit aussi dans l'heure des prêches, etc. Et c'est très bien ce que fait Monsieur Darmanin. Je dirais pas le contraire. Faut aller beaucoup plus loin. Mais sur la question du voilement des petites filles, je trouve vraiment pas normal qu'on n'ait pas interdit ce voilement des petites filles. C'est assez terrible quand même. C'est des petites filles. Hein. Mmh. Alors on interdit la burqa, quand même incroyable, mais on n'interdit pas le voilement des petites filles. Et puis sur les bails emphytéotiques, il faut que ça soit plus les élus qui est en charge, parce que c'est vraiment une pression qui est faite pour dealer les voix. Il faut clairement dire les choses, donc ce n'est pas normal. Il faut que ça soit géré au niveau de l'État. Et j'irai plus loin, il faut qu'aujourd'hui, les élus soient dignes de la République. Digne du justement de cette laïcité et digne de la protection qu'on doit aussi aux citoyens. Donc je pèse mes mots, vous voyez. Donc pour moi, quand un élu se présente, il doit être digne de la République, il doit s'engager. Et s'engager, ça veut dire que pénalement, s'il y a des accommodements, eh bien, cet élu doit rendre des comptes à la République.
Bon, vous nous raconterez votre parcours aussi tout à l'heure. Une réaction, Maître Olivier Maurice, à ce que vous venez d'entendre.
Ce sont des sols et des terres qui ont été abandonnés par la République depuis très longtemps. Ouais. Vous savez...
Les fameux territoires perdus de la République,
Monsieur le député est ancien avocat spécialiste en matière de ruralité. Lorsqu'un sol est abandonné, il faut faire un travail de fond. Et ce travail de fond, il va prendre du temps. Alors, certainement... que le travail qui est actuellement mené par le gouvernement est intéressant, mais il faudra attendre des années. Réfléchissons d'où vient Mohamed Merah, d'où viennent un certain nombre de personnes radicalisées.
Vous avez travaillé sur toutes ces affaires.
Dans tous ces ghettos qui existent. Donc, je dirais un encouragement, mais à voir encore, parce que ce travail de fond va nécessiter beaucoup de dynamisme et de détermination politique.
Ce qui explique d'ailleurs les thèmes qui sont développés aujourd'hui par Éric Zemmour. Alors certains vont lui reprocher d'être outrancier, etc. Jean Terlier, en même temps, il met des sujets sur la table qui parfois étaient évités ou on était dans le déni, non ?
Non, je suis pas sûr que ces sujets, on les avait pas abordés. Je crois, moi, qu'on peut parler d'immigration, de sécurité, de lutte contre l'islam radical, sans être dans l'outrance, comme le fait Éric Zemmour, me semble-t-il. Bon, il pose un certain nombre de constats. Je suis pas certain que les solutions qu'il prône soient.
Bon, on les voit pas toutes pour l'instant. Ouais, parce que dans le constat.
Oui, parce donc, qu'on ne sait même pas encore s'il est candidat. Donc effectivement,
oui, oui. Et puis, on est à 6 mois de la présidentielle quand même.
Quoi. Nous verrons bien. Mais on a quand même aujourd'hui des propos qui sont tenus, des polémiques sur Vichy, sur les prénoms. Sur les propos qu'il tient qui sont parfois, j'allais dire, racistes, comme ça a pu être le cas dans le cadre des condamnations, d'appels à la haine, etc. Il y a autour de quand même d'Éric Zemmour une personnalité, puisqu'on parle de lui, qui est, me semble-t-il, très clivante et trop clivante. Je crois que s'il est candidat, peut-être le sera-t-il, je crois que les Françaises et les Français sont attachés à la personnalité d'un président de la République. Et on ne peut pas avoir ce type de positionnement outrancier, parfois démagogique, quand on aspire à cette fonction-là.
La démagogie, elle est parfois dans tous les camps, quand même, en politique.
Là, c'est quand même très outrancier. Enfin, je veux dire, quand vous entendez ces déclarations sur Marine Le Pen, de dire que Marine Le Pen est une femme de gauche, oui, par exemple, on pourrait multiplier les...
C'est vrai que Marine Le Pen, par exemple, sur la retraite, elle prenait plutôt une position, la réforme des retraites, de gauche que de droite.
Oui,
que libérale,
sur ce sujet des retraites, certes.
Ouais, ouais. Naïma, un mot avant de poursuivre sur ce que vient de dire Jean Terlier concernant Éric Zemmour. Il est dans l'outrance ou il a le mérite de mettre des sujets sur la table ?
Écoutez, il est dans les deux, en fait. Hein. Il a le mérite de mettre des sujets sur la table, aujourd'hui, qui sont effectivement, où certains... politique, notamment la droite, ose maintenant aborder, ou l'AREM aborde, hein, parce que président Macron, il était quand même dans le en même temps. Hein, mais il est dans l'outrance aussi. Et puis, je pense qu'il est injuste aussi, parce que la plupart des personnes issues de l'immigration, qu'elles soient devenues françaises ou étrangères, la majorité sont soucieuses aussi du vivre ensemble, soucieuses de l'école qui décline, de l'autorité, ne veulent plus de ce laxisme, etc. Moi, je vous assure, je travaille dans les quartiers, à chaque fois que j'ai mis en place des politiques avec différents intervenants, à chaque fois on me disait il faut beaucoup plus être sanctionné, il faut que... l'autorité parentale par
elle
exemple.
Elle vient aussi des quartiers quoi. Hein, c'est ça,
mais
c'est
bien
demande.
Sûr,
quoi,
bien
c'est
sûr,
demande,
c'est pour
quoi.
Ça que le discours de diviser les Français, je trouve ça insupportable.
Bon, allez, on continue avec vous. Vous allez nous raconter votre parcours, justement, aussi, et le combat des femmes. C'est ce que vous décrivez à travers votre livre, Naïma M. Fadel, essayiste. Merci à Jean Terlier d'être venu, en fait, ce matin, député de La République En Marche du Tarn. Les terres rurales, mais il y a aussi des villes, hein, bien sûr, dans le Tarn.
Castres, notamment.
Et bien sûr, qui va très bien, du côté du rugby.
Ouais.
Et maître Olivier Maurice qui est
Merci
venu ce matin nous parler de cette histoire. Et on va suivre hein, pour Dupond-Moretti notamment, quoi, bien sûr.
Merci. Oui, le Grand Matin continue, à tout de suite.
Le Grand Matin Sud Radio, 7h-10h, Patrick Roger, Judith Belair.
Bonjour à tous, si vous nous rejoignez, on continue le Grand Matin avec Naïma M. Fadel, qui est essayiste.
Oui, Naïma M. Fadel, vous racontez votre parcours dans votre livre et vous parlez finalement, à travers votre livre, qui est un livre témoignage et de dialogue aussi sur les quartiers avec Olivier Roy, spécialiste en fait de l'islam, dans ce dialogue, on comprend finalement comment évoluer en 40 ans tous ces quartiers. Quoi. Il y avait, dans les années 60-70, les choses allaient plutôt bien. Il y avait les gens avaient des logements, c'est ce qu'ils voulaient, etc. Et puis ensuite, progressivement, il y a eu une dérive, quoi, où on s'est retrouvé pour certains entre soi, les autres en fait sont partis. C'est un petit peu ça en fait dans les quartiers. Et alors là, vous évoquez aussi la situation qui nous intéresse beaucoup parce qu'on l'évoque énormément en ce moment autour des femmes voilées. Vous intervenez aussi sur les femmes, quoi. Et aujourd'hui, ce qu'elles voulaient, c'est-à-dire une certaine liberté, vous avez revendiqué, et qui, pour certains aujourd'hui, on a l'impression que c'est en train de se refermer.
C'est-à-dire que c'est pas la force des choses, en fait. Hein. Les personnes sont arrivées en France, sont arrivées dans une société où déjà le voile existait moins dans les pays d'origine. Il n'y avait pas cette pratique de l'islam.
C'était l'inverse,
très important.
Quoi. On abandonnait progressivement le voile.
C'est
quoi.
Vrai. C'est ouais. Celles qui mettaient les voiles, c'était en fait les femmes qui étaient plutôt ce qu'on appelait les paysannes ou les femmes. Vous voyez, les femmes en général dans les villes, elles mettaient pas beaucoup le voile. C'était quelque chose qui restait de l'ordre de minoritaire. Et puis surtout, il n'y avait pas une, comment dirais-je, une obligation morale.
C'était du folklore,
c'est,
presque, en fait.
C'est ça. C'était, ouais. On le mettait sous on voulait. Il n'y avait pas une injonction morale. Hein, parce que je n'aime pas qu'on dise qu'il y a une pression violente, mais c'est plutôt une injonction morale. Et puis les gens, quand ils sont arrivés en France, de par le fait d'être minoritaire, ils se sont habillés à la française. Moi, ma maman, tout de suite, mon papa, elle avait un foulard, mais à la méditerranéenne. Il n'avait pas cette connotation religieuse. Et c'est vrai qu'elle s'est habillée à l'européenne.
Et pourtant, ils étaient religieux.
Oui, ils étaient religieux. Ils étaient dans un islam, j'allais dire, apaisé. Parce que vraiment, c'était le mois du ramadan. On faisait le ramadan, mais ce n'était pas une obligation. Et les gens ne se regardaient pas en se jugeant. Ce n'était pas du tout ça. Certains, on pouvait avoir dans la famille quelqu'un qui buvait de l'alcool, mais il n'y avait pas de rejet. Enfin, c'était vraiment bon enfant. C'était vraiment un islam apaisé. Islam apaisé, extrêmement tolérant. Et moi, j'ai vécu dans ça. C'est vrai qu'après l'évolution, à partir du moment où il y a eu le regroupement familial aussi, qui s'est accompagné aussi de la réislamisation dans les années 80, parce que dans les pays d'origine aussi, l'islam est comment dirais-je, a été...
À retrouver des forces, quoi, en quelque sorte.
À retrouver, effectivement, des forces, en France aussi. Il y a aussi eu de la construction de mosquées. Il y a eu les quartiers qui ont, effectivement, évolué, changé, en étant beaucoup plus des espaces ethniques et religieux. Donc, vous voyez, tout ça, ça a été un processus, en fait, qui est arrivé, mais que les différentes politiques publiques n'ont pas appréhendé. N'ont pas appréhendé, notamment sur cette politique du logement, où il fallait absolument arrêter cette concentration ethnico-culturelle et faire en sorte de garder le plus possible la mixité, tout en intervenant aussi sur les nuisances, les délinquances, etc., et notamment en isolant les familles à problème.
Ouais, mais c'est plutôt l'inverse qu'on a fait, quoi. On a regroupé même par affinité, en quelque sorte, par origine, bien souvent, les gens dans des immeubles, dans des bars, quoi.
Oui, il y a eu même, alors moi, c'est dans différentes villes, hein, parce que j'ai travaillé dans différentes villes, hein, en province, mais aussi en Île-de-France. Il y avait même des immeubles où il y avait des gens tous de la petite Kabylie, vous voyez. D'autres, des immeubles de
Par secteur.
Voilà, mais encore une fois, vous savez, quand je regarde ça, je me dis, mais vraiment, les pouvoirs publics pensaient bien faire. Pensaient bien faire, mais ils n'ont pas vu tout ce qui est... Alors, effectivement, cette concentration a fait que... Parce que j'ai vu M. Zemmour qui est passé à Drancy et qui s'étonnait qu'il n'y ait plus que des boucheries
halal.
Mais c'est par la force des choses, c'est comme ça. Enfin, c'est-à-dire qu'à un moment...
Parce que la population qui est là, elle fonctionne
exactement,
comme ça,
en fait, la majorité, parce qu'il faut savoir une chose aussi, c'est que la viande halal, c'est à partir des années 80. Auparavant, les familles allaient acheter la viande comme tout le monde. Et d'ailleurs...
C'est quand il y a eu la réislamisation.
Réislamisation, effectivement, on nous a vendu qu'il fallait absolument manger halal, etc., etc. Et tout ce qui s'en est suivi avec les charcuteries, etc. Tout ce business, je dirais, autour du halal.
Oui. Naïma M. Fadel, vous êtes toujours évidemment beaucoup en contact, puisque vous travaillez aussi sur des missions sur la ville, sur les quartiers. Est-ce que vous avez l'impression qu'il y a, que les femmes qui portent en fait aujourd'hui le voile, qui sont visiblement quand même de plus en plus nombreuses, on le voit quand on va dans ces quartiers, est-ce qu'elles le font uniquement par leur propre volonté, ou c'est parce qu'il y a une pression sociale, d'une manière ou d'une autre, quoi ?
Il y a plusieurs, pour être honnête. Il faut qu'on... faut être honnête sur ces questions-là. Vous avez des femmes qui le portent parce qu'il y a une pression du mari. D'accord. Mais vous avez aussi des femmes qui le portent parce qu'elles disent, c'est comme ça. Par conviction religieuse, en disant, il faut porter le voile. Parce qu'on a aussi réislamisé comme
voilà,
ça.
C'est ça.
Alors que, clairement, dans le Coran, il n'y a rien de spécifique qui dit qu'il faut
porter le voile
et notamment cacher ses cheveux. Donc, c'est encore une fois des interprétations de théologiens et tout ça. Je ne rentrerai pas dans ce détail. Et puis, il y a une espèce de mimétisme du quartier. Moi, j'ai beaucoup d'amis de ma génération qui aujourd'hui portent le voile, parce que je suis beaucoup en lien avec les quartiers, puis ça j'adore les rencontrer, parce que humainement, elles sont des femmes formidables. Et elles me disent, mais Naïma, on le porte, certaines me disent, on le porte aussi parce que tout le monde le porte.
Oui, c'est ça.
Parce
ouais,
que
y
tout
y
le monde le porte.
Quoi.
C'est pour
comme
ça,
tout le monde, quoi.
Comme tout le monde. Et ouais. C'est pour ça que moi, je me dis, mais l'altérité, le fait... C'est pour ça que j'en veux beaucoup à ces politiques qui ont été des politiques qui intervenaient sur le quartier, sur le zonage, et il ne fallait pas se mélanger. C'est-à-dire que si vous mettez en place ouais. une action quartier et avec des personnes hors du quartier, on ne vous donnait pas les subventions.
Mais le voile...
Alors qu'il faut faire
oui.
rencontrer
oui.
les
mais
gens.
Le voile,
faut...
en même temps, n'est pas interdit, bien sûr, dans l'espace, l'espace public, enfin, dans la rue, quoi. Bien sûr, dans des lieux, dans des services publics, oui, il peut être interdit, mais pas ailleurs, quoi.
Notre pays, la laïcité, n'interdit pas, effectivement,
oui,
de mettre le voile hors des services
publics. Et est-ce
publics
que, pour vous, ça pose quand même, en fait, un problème que davantage, de plus en plus de femmes portent le voile? Je parle de voile et je ne parle pas, évidemment, ou alors je parle plus de foulard, peut-être, que de...
Oh bah, vous savez, oui, c'est un foulard.
Alors oui, c'est un foulard, voile. Non, mais après, c'est pas la burqa, évidemment.
C'est le foulard qui voile.
Mais est-ce que ça veut dire qu'il va y avoir un pourcentage de plus en plus important de personnes qui vont complètement, en fait, se voiler, quoi?
Bah, le problème, c'est qu'aujourd'hui, effectivement, tant qu'on n'aura pas aussi les théologiens moi je sais que j'en discute beaucoup avec certaines personnes qui sont quand même représentatives du culte musulman autour de cette question du voile, qui sont souvent, qui trouvent que c'est un peu de la bigoterie, hein, faut dire les choses. Aujourd'hui, moi ce que je peux observer, c'est que c'est devenu quand même, au niveau des jeunes, un étendard
identitaire. C'est ça.
Et c'est pour ça que je pense qu'aujourd'hui, l'enjeu pour notre pays, c'est comment travailler une vraie politique de faire France ensemble.
Ouais.
Comment on travaille vraiment pour que... pour remettre en place des sas d'entrée dans la citoyenneté.
Ouais.
Parce qu'il faut savoir une chose, on a parlé de tout ce processus, mais dans le livre, je parle aussi de tous ces sas d'entrée dans la citoyenneté que notre pays a abandonné.
Ouais.
Et tous les tabous de la fierté d'être français. Vous savez, vous ne pouvez transmettre que si vous, quelque chose que si vous en êtes fier. Si à un moment notre pays se flagelle, n'arrête pas de se remettre en question et d'avoir honte de lui, qu'est-ce que vous voulez transmettre? Et l'école, et moi je suis un pur produit de l'école française d'antan, si je puis dire, qui m'a transmis cet amour de ce pays, cet amour de l'histoire de France. Moi j'étais fière de dire mes ancêtres les Gaulois, il n'y avait pas de souci. Hein.
Bon, tout n'est pas perdu alors selon vous quand même.
Non, tout n'est pas perdu parce que vraiment les habitants des quartiers populaires sont vraiment dans le souci de toutes les questions qui aujourd'hui interrogent notre pays. Et je pense que la force...
Certains se sentent aujourd'hui stigmatisés quand même aussi, peut-être.
Oui,
quoi.
Parce que...
On avait Abdelkader ce matin qui disait, il était à Montpellier, à la Mosson, il disait, bon, faut arrêter, toutes les femmes ne sont pas voilées, elles peuvent aller dans les cafés, quand même, dans nos quartiers, quoi, aussi.
Alors, la question des cafés dans les quartiers, juste sur ça, Patrick, excusez-moi, mais moi, sur le Val-Fouré à Mantes-la-Jolie, j'y allais dans les cafés. En fait, c'est les femmes qui ne s'autorisent pas. J'en parle
parce
dans le livre.
Parce qu'il y a trop d'hommes, en fait.
Mais si vous ne rentrez pas, il n'y aura pas une seule femme. Et moi, je rentrais, ça se passait très bien. C'est parce que c'est le regard...
Il y a quand même, il y a aussi un certain nombre d'années. Quoi.
Oui, mais, non, mais Mantes-la-Jolie, j'y ai travaillé il y a 4 ans.
Vous êtes stigmatisée aujourd'hui quand vous êtes une femme et que vous rentrez dans un café plein
d'hommes. On va vous regarder. Voilà. On va vous regarder parce que vous serez la seule femme. Mais si les femmes n'osent pas et se freinent, vous voyez, c'est un peu le...
C'est un cercle vicieux.
C'est un cercle vicieux. En tout cas, ce que je voudrais juste dire, c'est que les hommes et les femmes politiques aujourd'hui doivent absolument s'adresser à l'ensemble des Français. Parce que sur ces questions régaliennes, tous se sentent concernés. Et je dirais aussi autre chose, c'est que la délinquance, les incivilités, les dégradations multiples, c'est les premiers qui en souffrent, c'est les habitants des quartiers.
Ouais.
Et il faut les protéger.
Oui. Merci beaucoup Naïma Mfadel pour ce livre. Hein. Et tout ça devrait faire d'excellents Français, Dialogue sur les quartiers. C'est aux éditions du Seuil. Vous pouvez le retrouver, évidemment. Vous allez sur les bons sites et vous l'aurez. Parfois de quelques librairies encore. Dans un instant, la France à vos côtés.
Oui, à tout de suite.